Patrick Baudry, donc vous êtes célèbre pour votre voyage dans l'espace, en 1985 déjà, à bord de Discovery. 7 jours entre ciel et terre, hein, c'est un rêve d'enfant, paraît-il. Est-ce que justement, Patrick Baudry, enfant, quel genre de petit garçon c'était ?
Moi, j'ai eu la chance d'avoir un rêve très, très jeune, très gamin. À 4 ans, je voulais être pilote, je voulais voler. Donc, mon objectif était clairement défini. Et donc, j'ai travaillé en classe pour ça. Hein. Ce qui aide à travailler en classe, d'ailleurs, il faut avoir un but, un rêve quelque part. Donc, mon rêve a toujours été de voler et j'ai eu la chance de pouvoir le réaliser peu à peu en étant d'abord pilote de chasse, puis pilote d'essai. Et puis, il y a eu ce premier vol spatial d'un Français qui a été réalisé avec les Soviétiques. Et donc, je suis parti avec Jean-Luc Chrétien en Union soviétique. Puis ensuite, le premier vol avec les Américains. Donc, j'ai eu donc cette chance, hein, de voler à bord de la navette avec les Américains. Et puis ensuite, l'Europe a décidé un programme spatial habité, hein, qui s'appelait Hermès, une navette spatiale. Et je suis entré à Aérospatiale, qui était le maître d'œuvre de ce programme à l'époque, pour poursuivre ce programme. Puis j'ai continué ma carrière de pilote d'essai à Airbus, bien sûr, enfin de tout ce qui concernait aérospatial.
Parce que quand vous dites voler, c'est un terme assez vaste, c'est voler donc dans les avions, mais c'est voler beaucoup plus. Et vous avez connu finalement tous ces domaines-là.
Oui, c'est vrai, mon rêve était de voler. Et lorsque j'étais enfant, évidemment, voler, c'était voler en avion, c'est clair. Après Gagarine, le vol pouvait prendre une autre dimension. Mais pour un Français, il était difficile d'imaginer qu'on puisse aller dans l'espace. Et jusqu'en 1979, où il y a eu cet accord entre la France et l'Union soviétique, pour qu'un Français parte à bord d'un vaisseau spatial soviétique dans l'espace. Donc à partir de là, le rêve a pris une autre allure, une autre dimension. Mais c'était quand même pas simple. Hein. Il faut bien réaliser qu'à cette époque, seuls les Soviétiques et les Américains pouvaient aller dans l'espace et que de toute façon, un Français qui devait partir avec eux avait un certain nombre de contraintes. Enfin, le vol spatial avait un certain nombre de contraintes. Les contraintes habituelles, techniques, météorologiques, tout ce que vous pouvez imaginer, mais également des contraintes politiques. Donc l'incertitude était tout de même grande. À cette époque, les vols spatiaux habités n'avaient pas la régularité, disons, la maîtrise qu'ils ont aujourd'hui. Et donc ça devenait quand même assez un petit peu incertain, disons. Et lorsque finalement j'ai eu cette chance d'aller dans l'espace, bon, c'était la réalisation d'un rêve au-delà de ce que j'imaginais. Parce que vous avez raison, quand enfant, on a un rêve qui est de voler, c'est de voler dans un avion. Le vol, en ce qui me concerne, bon, il n'a pas de limite d'altitude, disons. Et le privilège d'aller dans l'espace, bon, c'est de réaliser un vol un peu plus parfait, un peu plus lointain, un peu plus haut, un peu plus vite. Et ça, c'est quelque chose de fantastique.
Est-ce que vous diriez que ce qui vous a permis de réaliser tous ces rêves, c'est, alors peut-être pas la chance, mais la vie qui vous a mis donc quelques petits coups de pouce, comme par exemple, si mes informations sont bonnes, j'ai cru comprendre que quand vous étiez petit, votre papa, qui était ingénieur météorologique, travaillait à côté d'une piste, d'un aéroport. Est-ce que ça n'aiguise pas un petit peu la curiosité de l'enfant qui justement déjà rêve de voler ?
Oui, c'est vrai. Le fait que mon père était ingénieur météorologiste et qu'il travaillait sur les aéroports, que ce soit Casablanca, que ce soit Alger, puis ensuite à Mérignac, ici à Bordeaux, a fait que le rêve avait une substance. Hein, ce n'était pas simplement un imaginaire absolu. Et pour moi, donc, tout s'est concrétisé peu à peu, s'est cristallisé. Mais de toute façon, dès l'origine, à 4 ans, mon père m'amenait déjà de temps en temps avec lui, rarement, à son bureau, entre guillemets, et donc sur un aéroport. Donc je voyais les avions, les pilotes, et certainement, c'est ce qui m'a donné le goût du vol en tant que pilote, hein, c'est certain.
Après, il vous a fallu donc beaucoup de patience, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure. Quand on est français, ce n'était pas forcément évident. Comment vous avez réussi, alors, d'une part, à garder cet espoir et puis vous battre pour y arriver, et puis pour vous imposer aussi au sein de cette équipe ?
Bien, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une porte d'entrée pour devenir astronaute, pour espérer voler dans l'espace, c'est la sélection. La sélection, consiste à retenir quelques individus, hein, 2, 3, 5, parmi un nombre de candidats très élevé. Ça a été le cas pour le premier vol spatial d'un Français. Hein, le CNES a lancé un appel à sélection, un appel à candidature, pardon, en début 79. Et on a été un très grand nombre à se porter candidat. Et donc, la sélection, c'est un processus très, très dur, en ce sens que vous ne maîtrisez pas tout, même si vous faites tous les efforts pour y arriver. Et lorsqu'au final, vous êtes retenu, ce qui a été mon cas avec Jean-Loup Chrétien en fin 79, eh bien, bon, c'est déjà une étape extrêmement importante qui est franchie pour aller dans l'espace. Et je dirais que c'est l'étape la plus difficile à franchir, parce que la sélection, elle ne dépend pas que de vous. Elle dépend bien sûr des qualités intrinsèques, physiques ou autres que vous avez. Elle dépend du travail que vous avez exercé jusqu'à ce jour. Et puis d'autres critères que vous ne maîtrisez pas du tout et qui déterminent le choix de ceux qui gèrent cette sélection. Donc une fois que vous êtes sélectionné, après les choses, même si elles demeurent incertaines, mais c'est pas grave quelque part, puisque là vous êtes déjà entré dans la place et après vous savez que vraisemblablement, l'occasion va se présenter, va se concrétiser d'un vol spatial. Donc cette sélection, c'est vraiment le point dur, le point difficile. Ensuite, même si ça demeure incertain, c'est quand même plus facile parce que vous savez qu'au bout, c'est du travail, c'est de l'entraînement. Donc c'est quelque chose auquel vous êtes habitué. Donc là, à ce moment-là, il suffit de faire son travail le mieux possible, comme avant finalement. Et puis qu'un jour, les éléments se rassemblent et que vous partiez.
Et justement, vous parlez d'entraînement, c'est un entraînement, pas seulement un entraînement physique, j'imagine, il y a d'autres domaines comme vous l'évoquiez, mais est-ce que pour l'aspect justement quand même physique, parce que c'est, enfin, partir dans l'espace, c'est pas rien, est-ce que vous aviez peut-être une physionomie qui était faite pour ça? Enfin, quel est le type de profil en fait pour partir dans l'espace au niveau physique?
Sur le plan physique, je résumerai les choses en disant qu'il faut être en bonne santé. Parce que finalement, il faut que vous puissiez supporter les contraintes d'un vol spatial, d'un lancement d'un vol, ce qui n'a tout de même rien d'extraordinaire. Bon, tout le monde n'est pas apte à partir dans l'espace, c'est vrai. Mais quand même, je pense que le plus grand nombre, oui, il faut être en bon état sur le plan cardiovasculaire, avoir un certain nombre de... Il faut avoir un bon équilibre. Finalement, l'astronaute, c'est pas celui qui est extrêmement performant dans un domaine particulier, c'est celui qui est bon dans tous les domaines. C'est pas un athlète de haut niveau qui doit gagner les Jeux Olympiques. Ça se rapproche plus d'un décathlonien, hein, que d'un athlète d'une seule ou de deux disciplines. Donc, et puis les qualités physiques, vous les avez ou vous les avez pas. Après, c'est vrai que le travail, l'entraînement permet d'améliorer certaines parties de vos qualités physiques, bien sûr, mais fondamentalement, ce sont des qualités intrinsèques que vous devez avoir. Ensuite, selon le rôle que vous allez jouer et selon l'époque, les choses deviennent de plus en plus moins difficiles, disons. Et le fait de mieux connaître le comportement du corps humain en apesanteur a permis, au fil du temps, à affiner les critères physiques de sélection. Parce que, bien sûr, ce ne sont pas les critères physiques qui sont les plus importants. Hein, ce qu'on cherche, ce sont des gens qui vont pouvoir effectuer un certain travail à bord de la station, à bord du vaisseau spatial, et selon le rôle qu'ils jouent dans l'équipage, être capable de gérer des situations imprévues, difficiles ou autres. Donc c'est finalement pas l'aspect physique qui est le plus important, mais néanmoins c'est celui qui détermine au début déjà un premier tri parmi les candidats.
Parce que partir dans l'espace, donc c'est pas un exploit physique. Vous le disiez, enfin, ça l'est un petit peu, mais ce n'est pas que ça. Vous disiez d'ailleurs que, enfin, les choses et les rêves que vous souhaitez et que vous souhaitiez accomplir, il fallait qu'ils aient un but et qu'ils servent à quelque chose. Donc c'est justement ça, le fait de partir dans l'espace, c'était pour servir quelque chose et être utile.
Oui, vous avez raison. À cette époque, en tous les cas, moi j'étais convaincu, je le suis toujours, que dans l'espace se déroulent des enjeux importants pour notre avenir, hein, à nous, êtres humains vivant sur la planète Terre. Et donc j'en suis toujours convaincu. Mais à l'époque, c'était une vérité. Il y avait, une aura autour de la conquête spatiale une aura autour des premiers soviétiques qui avaient ouvert la voie et des Américains qui avaient aussi fait de grandes choses, notamment les sur la Lune, qui faisait que c'était un petit peu accéder à une autre dimension sur le plan intellectuel, moral et sur le plan des ambitions. Donc c'était participer à une aventure qui vous dépassait. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes. La conquête spatiale, aujourd'hui, par définition, je trouve qu'elle tourne en rond. C'est-à-dire, elle tourne en rond autour de la Terre. Je ne vois pas très bien l'intérêt, aujourd'hui, de continuer à voler autour de la planète Terre, alors qu'il y a des enjeux bien plus importants qui se déroulent au-delà, notamment aller s'installer sur la Lune, y travailler quotidiennement, comme on travaille sur tous les continents terrestres de la Terre et autres. Je crois que le rôle de l'homme dans l'espace, il est d'ouvrir des voies, de conquérir des domaines nouveaux. Et depuis 20 ans, avec cette station internationale, on tourne autour de la Terre. J'avoue que je trouve ça un peu pathétique. Et c'est pas, en tous les cas, en ce qui me concerne, c'est pas du tout l'idée que je me fais de l'idéal de la conquête spatiale.
Parce qu'il y a un vrai intérêt quand même du public quand on voit, donc vous parliez de ces Rosetta, etc. par exemple, mais il y a aussi des expositions, je pense à CapScience qui a actuellement fait une exposition sur le sujet. Au cinéma, les films Gravity, Interstellar, bon, Kubrick avec 2000 ans d'Odyssée de l'espace il y a plus longtemps, mais comment vous expliquez cet intérêt quand même dans ces domaines-là, dans ces domaines donc du cinéma, etc., et que finalement, derrière, ça ne suit pas.
Bien, parce que normalement, on pourrait imaginer que ce sont les films qui suivent les réalités, les conquêtes. En fait, aujourd'hui, c'est l'inverse, quoi. Ce sont les écrivains, les cinéastes, les philosophes qui devancent de très loin les ambitions humaines. Et encore une fois, c'est pas une question de budget. Avec le budget que l'on consacre à la station internationale, on pourrait largement aller s'installer sur la Lune. Donc il faut que les gens le comprennent, ça. Il y a deux problèmes. Il y a un premier problème qui est que l'espace habité, je parle d'espace habité, hein, parce que l'espace automatique, les satellites, l'observation de la Terre, les sondes, etc., c'est un autre domaine. Et là, les choses se passent très bien et les gens font un travail fantastique avec les budgets dont ils disposent. En revanche, en ce qui concerne l'espace habité, c'est pathétique de voir le manque d'imagination et la routine dans laquelle ils s'enferment. À budget équivalent, ils pourraient faire des choses bien plus belles, bien plus ambitieuses, même si elles sont plus risquées. Aujourd'hui, on vit dans une culture du non-risque qui est vraiment affligeante, parce que c'est le risque qui nous fait avancer. Que ce soit une entreprise, soit un être humain, sans risque, la vie non seulement est fade, mais en fait elle est courte. Et je crois que l'absence de risque, c'est mourir quelque part. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'on observe. On parlait de l'Europe. Moi, je me souviens qu'il y a 30 ans, l'Europe, c'était un rêve ambitieux, fantastique. Et quand je vois 30, 40 ans après ce que c'est devenu, ce que c'est réellement, c'est quand même très décevant. Et aujourd'hui, quand on voit tous ces pantins plus ou moins politiques qui nous font des grands discours dans les médias, la télé ou ailleurs, c'est quelque chose d'affligeant, quoi. Cette espèce de soupe d'eau chaude qu'on nous déverse chaque jour avec des grands mots qui n'ont pas de substance. Je ne dis pas que les mots doivent tous avoir un côté réel, etc. C'est pas du tout ça, bien sûr. Mais tout de même, rabâcher les mêmes choses sans qu'il n'y ait jamais rien derrière et ne pas faire des choses qu'on peut faire. Notre pays, la France, pour ne parler que de lui, même si c'est un tout petit pays, même si on n'est pas le centre du monde, loin de là, on a des capacités extraordinaires. On l'a montré en aéronautique. Moi, j'ai participé à l'aventure Airbus avec des gens extraordinaires. On a fait en sorte qu'aujourd'hui, l'Europe ait une industrie aéronautique. Donc, c'est possible. Et on l'a fait. Dans le domaine spatial, c'est la même chose. Je ne vois pas pourquoi l'Europe devrait suivre ce que font ou ce que ne font pas les États-Unis, les Russes, etc., ou les Chinois. Ça n'a aucun sens. On a une réelle capacité de réalisation, d'imagination, de conception, d'ambition, et il faut le faire. D'ailleurs, ça semble se frémir aujourd'hui. Il y a un frémissement qui laisse espérer que dans peu de temps, les choses vont un petit peu changer et on pourra réaliser à nouveau de grandes choses.
C'est une question de volonté, finalement. Et vous, la volonté, juste pour revenir sur brièvement hein, sur votre passage dans l'espace, cette volonté vous a amené donc à partir. Est-ce que pendant ces 7 jours dans l'espace, c'est long et c'est court à la fois finalement, à quoi on pense quand on a la tête dans les étoiles?
Eh bien, lorsqu'on est dans l'espace pour une mission de courte durée, quoiqu'à l'époque c'était la mission un peu standard, la navette ne pouvait pas rester dans l'espace plus de 8 jours. Donc c'était la mission qu'on pouvait espérer faire à bord de la navette. Mais disons qu'on travaille le plus possible, puisqu'on a travaillé à la conception, à l'élaboration d'équipements pour réaliser des expériences scientifiques. C'était la mission française essentiellement, un ensemble d'expériences, de protocoles expérimentaux dans le domaine de la physiologie, dans le domaine de l'astrophysique, etc. Peu importe, ce que je veux vous dire, c'est simplement que quand vous partez dans l'espace pour 8 jours, vous travaillez le plus possible, parce que vous êtes complètement investi dans votre mission, vous voulez en faire le plus possible, le mieux possible, donc c'est ça votre objectif principal. Mais par-delà cela, il se trouve que vous êtes dans une position extraordinaire et privilégiée. Vous avez cette possibilité de voir la Terre sur fond d'espace. Vous avez ce spectacle magique qui s'offre à vous. Et donc, à chaque fois que vous en avez un petit peu le temps, vous regardez la Terre et vous rêvez et vous pensez. Et ce temps, vous le trouvez bien souvent dans votre temps de repos, puisque par 24 heures, on a à peu près 15-16 heures de travail et 8 heures de repos. Donc, ce temps de repos, on peut le passer à regarder la Terre et à vivre ce que l'on vit. Au lieu de dormir, hein, puisqu'on est en excellente santé, ça je vous l'ai dit, on est très en forme, et 8 jours, on peut manger un peu sur son capital sommeil, etc. D'ailleurs, ce que font les navigateurs dans les courses sur mer, hein, donc ça n'a rien d'extraordinaire. Mais c'est ce que l'on fait pour pouvoir profiter de ce temps exceptionnel que vous vivez, de cette position où vous pouvez voir votre planète. Comme ça, isolé sur fond d'espace, complètement seul, et en même temps d'une beauté extraordinaire.
Et quand on revient sur Terre, après cette expérience-là, justement, comment on revient au quotidien?
Eh bien, on ne revient pas au quotidien, parce que c'est difficile de revenir au quotidien. On essaye de rester là-haut. Enfin, pour ma part, à mon retour, bon, il y a eu la décision de l'avion spatial Hermès pour l'Europe. Donc, je me suis investi complètement dans ce que je pensais être une nouvelle aventure ambitieuse, enthousiasmante. Cette aventure s'est arrêtée en 93. Entre-temps, moi, j'avais commencé, puis je volais régulièrement en tant que pilote d'essai à Airbus. On développait, c'était l'époque, on a développé le 320, qui était le premier avion commercial commande de vol électrique. Et donc, c'était une aventure extraordinaire aussi. Donc, j'ai eu cette chance de, à peine revenu, qui est d'abord une belle aventure européenne qui se décide, de m'y investir. Et puis, elle n'a pas tenu, et malheureusement, pour des raisons politiques essentiellement, de manque d'ambition politique, ça je peux le dire clairement, non pas de problèmes budgétaires comme les politiques, comme la propagande de l'époque, du gouvernement de l'époque a voulu le laisser croire. C'était un pur manque d'ambition, de volonté pour l'Europe. Bon, peu importe. Entre-temps, moi, je m'étais investi à Airbus dans les essais, dans le développement d'avions commerciaux nouveaux. On s'est battu contre Boeing dans le monde entier pour imposer les appareils que l'on réalisait. Et aujourd'hui, on a une industrie aéronautique florissante en Europe. Donc, c'est quelque chose qui. J'ai eu cette chance.
Et là, si vous deviez repartir, qu'est-ce qui vous manquerait le plus sur Terre?
Ça, c'est vraiment une question piège.
Je
Si je devais repartir, je repartirais sans hésiter. Et j'ai rêvé de repartir, mais cette fois-ci, de faire des choses plus utiles, enfin comme aller participer à l'exploitation de la Lune ou aller explorer Mars. Aujourd'hui, je vois bien que les choses ont tellement tardé que ça, il y a fort peu de chances que ça se réalise. Mais si aujourd'hui, il y avait une possibilité d'aller sur Mars ou d'effectuer un vol, bon, je m'y investirais sans aucun problème, bien sûr, avec autant d'enthousiasme qu'alors. Mais je ne pense pas que ça se présente, hein, réellement. Ça, c'est le domaine d'un rêve qui restera un rêve.
Après, je rebondis sur l'évocation de Mars. Il y a un projet, le projet Mars One, que vous avez forcément, dont vous avez forcément entendu parler. Comment vous voyez ce projet-là, enfin, vous, en tant que ben justement ancien astronaute ou spationaute, d'ailleurs, on dit pour vous.
Moi, plutôt cosmonaute, astronaute, spationaute, c'est un terme français qu'on a inventé à cette époque avec Jean Loup et qui est passé dans les mœurs ou dans la langue, mais je l'utilise de moins en moins parce que faire partie d'un pays qui n'a pas la capacité d'envoyer l'homme dans l'espace et inventer un terme, vous voyez, qu'on ne peut pas quand même s'approprier, bon, peu importe. Donc, cosmonaute, astronaute, en hommage aux Soviétiques, aux Russes et aux Américains, et puis bientôt aux Chinois avec les taïkonautes, ça me paraît plus approprié. Mais spationaute, c'est un joli terme aussi, hein, qui a toute sa signification.
Oui, justement, c'est pour ça que je me posais la question. Et donc, du coup, voilà, pour revenir sur Mars One, est-ce que c'est un genre d'expérience que vous auriez pu tenter, sachant que c'est un voyage sans retour qui est promis aux candidats restants? C'est quelque chose que vous auriez tenté?
Eh bien, ce qui est intéressant dans Mars One, c'est déjà la réflexion que cela amène. Et ça, on n'a pas besoin d'être astronaute ou cosmonaute pour être concerné par un projet comme Mars One. Moi, je trouve ça très intéressant parce que ça nous amène à réfléchir sur ce qu'on est devenu, sur ce que l'on est réellement. Aujourd'hui, pour moi, il est évident que Mars One ne se réalisera pas parce qu'aucun État n'autorisera un décollage dans l'espace vers Mars de son territoire à partir du moment où on sait qu'il n'y a pas de retour pour les hommes qui sont à bord. Bon, mais peu importe. Ça fait vivre le rêve et surtout ça nous permet de réfléchir sur le stade où nous en sommes, notre évolution. Aujourd'hui, on a un tel rejet de la prise de risque, un tel rejet et surtout un tel rejet de la liberté de chacun. Hein, on voit qu'il est déjà très difficile. Il est impossible en France, par exemple, pour un être humain en phase terminale de décider de sa mort. Et donc, bon, en France, c'est impossible. Il suffit d'aller en Suisse hein, pour pouvoir mourir dignement. Et je trouve que c'est l'occasion de réfléchir sur ce que nous sommes, sur ce qu'est notre société en France et dans les autres pays, de comparer tout cela. Donc, Mars One, c'est un aiguillon à la réflexion. Et en même temps, c'est un beau profil. Moi, évidemment, s'il était possible d'aller sur Mars, même sans en revenir, j'irais sur Mars sans aucune hésitation, parce que l'aventure est tellement enrichissante et riche en elle-même qu'elle vaut le coup d'y participer. Il faut bien comprendre que parmi les êtres humains qui composent l'espèce humaine, il y a une infinie diversité. Il y a des gens qui ont besoin de sécurité, il y a des gens dont le besoin d'avancer est plus important que leur besoin de sécurité. Et vous savez, à l'époque, à d'autres époques, hein, peu importe, prenons celle de Christophe Colomb, parce que tout le monde la connaît, Christophe Colomb, lorsqu'il a découvert l'Amérique, quand il est parti du Portugal, je pense qu'il était assez intelligent pour savoir qu'il n'était pas certain de revenir à son point de départ. Même s'il a tout fait, ce qui est naturel, pour que ça réussisse, et il a réussi... En aucune manière, il pouvait être certain de revenir. Donc voilà, il y a des gens comme ça, il y en a toujours eu, il y en a eu avant, il y en a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a une telle contrainte sociétale sur leur liberté d'action, liberté de décision, que c'est complètement impossible. Mars One, c'est impossible. Tout le monde peut comprendre ça. Dans la société où l'on vit, vous comprenez bien qu'on ne va pas autoriser un vaisseau spatial à partir avec des gens qui sont condamnés à la mort à plus ou moins brève échéance. Et est-ce que c'est bien de leur interdire? Ça, c'est une vraie réflexion. Regardez, à chaque fois qu'il y a un accident en montagne, des gens qui vont à leur limite... Hein, qui essayent de dépasser leurs limites et qui parfois, malheureusement, à cause d'un imprévu ou d'une erreur, perdent la vie. À chaque fois, vous avez des critiques qui s'élèvent, mais quand même, avec l'argent du contribuable, on essaye de leur porter secours, de les soigner. C'est ridicule. Finalement, laissons les gens mener leur vie comme ils l'entendent et ensuite prenons la décision en conséquence. S'ils s'engagent à prendre leurs risques en connaissance de cause et avec leur propre libre arbitre, eh bien, laissons-les aller au bout. Et voilà. Mais on est incapable de ce genre de réflexion aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? J'en sais rien. Moi, je pense plutôt que c'est un mal, bien sûr, vous l'avez compris, mais bon, je laisse chacun réfléchir à sa manière sur ce plan.
Et parmi les candidats restants, je crois qu'ils sont une centaine, on a Jérémy Sagé qui est un Bordelais. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré peut-être ou pas?
Non, je ne l'ai pas rencontré, parce que Marsouane, je ne m'y suis pas du tout investi, étant donné que je suis certain que de toute façon, ça ne se réalisera pas. Je suis un rêveur, mais vous savez, un astronaute, c'est quelqu'un qui a avant tout les pieds sur Terre. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Donc, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il s'engage dans une mission collective, parce que les grandes missions, les grands objectifs, c'est toujours collectif, mais tout en œuvre pour les réussir. Et Marsouane, dès le début, j'ai trouvé ça passionnant. Je trouve ça extrêmement intéressant. Bon, enfin, les gens qui participent ne me passionnent pas plus que ça, puisque, en fait, je suis comme eux. Hein, donc, simplement, eux ont le temps, la volonté de s'y engager dans les priorités de leur vie. Bon, ils s'y consacrent, c'est très bien. Mais non, je ne le connais pas. Et vous savez, c'est comme. Il y a un Français aussi, comment il s'appelle, Romain? Celui de. S'appelle Mars 500, ceux qui ont passé 520 jours dans une cabane au fond du jardin, là, vous voyez, pour simuler un vol sur Mars. Romain. Charles, voilà, Romain Charles, merci, on m'a soufflé, je ne me souviens jamais de son nom, parce que bon, c'est quelqu'un de superbe, hein. C'est pas lui qui est en cause, mais enfin ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. Je veux dire, passer 520 jours dans une cabane au fond du jardin, moi j'aime bien les objectifs qu'on peut réellement atteindre, quoi, qui correspondent à quelque chose, et simuler un vol vers Mars en restant sur Terre, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. Et je pense sur le plan médical, sur le plan psychologique, il n'y a aucun problème pour que l'homme aille sur Mars. Il faut quand même savoir les choses. Aujourd'hui, on vit dans un monde tellement aseptisé, tellement apprivoisé, qu'il y a plein de voix qui s'élèvent pour dire qu'il est impossible pour l'homme d'aller sur Mars parce que le voyage est trop long, parce qu'il va s'éloigner de la Terre, il va perdre de vue la Terre. C'est une stupidité sans nom. Évidemment qu'il y a des gens qui sont prêts à perdre de vue de la Terre parce que, en soi, l'intérêt est tellement fort qu'il est beaucoup plus fort que le fait de rester à proximité de la Terre. C'est aussi simple que ça. Et je me souviens que dans les années, justement, où j'étais encore gamin, dans les années où Gagarine a ouvert la voie de l'espace, il y avait aussi beaucoup de voix qui se disaient « L'homme ne peut pas survivre dans l'espace en apesanteur. » Alors, il y a eu toutes sortes. Et les contraintes médicales qu'on a eues, nous, pendant notre sélection avec Jean-Luc Chrétien, aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est quand même fait d'une manière plus intelligente. Mais c'est pareil. C'était un peu pour trouver le surhomme qui résiste à tout. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous posiez la question des capacités physiques, ça me faisait sourire. Mais c'est vrai qu'on a, on a testé sur nous des capacités qui dépassent la moyenne. Mais ça me faisait sourire parce que j'étais persuadé que ça ne servait à rien. Et en fait, ça ne sert à rien. Vous partez dans l'espace, vous êtes ficelé au sommet de votre fusée. Et puis voilà, les accélérations, si vous êtes en bonne santé, vous les supportez. Et quand vous êtes dans l'espace, vous adaptez très bien. Et quand vous revenez, vous réadaptez plus difficilement d'ailleurs aux conditions terrestres. Et pour ceux qui iront sur Mars, c'est tellement fantastique de voir la Terre disparaître et d'attendre de voir Mars grossir et tout le travail qu'il y a pendant ce temps-là pour gérer la mission, la sécurité, etc. Je crois que les gens qui disent c'est impossible sont des gens qui n'ont aucun sens pratique, qui n'ont aucune expérience ni du vol, ni du développement d'un aéronef type avion, ni encore moins d'un véhicule type vaisseau spatial. Ce sont des gens qui ont d'autres qualités, d'autres compétences et qui parlent de choses qu'ils ne connaissent absolument pas.
Et est-ce que pour pouvoir envoyer des personnes, enfin des hommes ou des femmes sur Mars, il faut avoir des gens qui sont prêts à y aller? Alors je ne parle pas forcément des candidats, enfin Mars One, etc. Je parle vraiment sur d'autres aspects. Est-ce que on a des astronautes ou alors peut-être des spationautes en France capables de partir? Et parce que finalement, il n'y a plus personne qui part dans l'espace.
Non, il n'y a plus beaucoup de Français. Le prochain qui devrait partir, je lui souhaite, c'est Thomas Pesquet, qui devrait faire partie d'une mission en 2016 ou 2017. Mais c'est vrai, mais de toute façon, pour faire ce qu'ils font, réellement, c'est gaspiller des gens qui ont un potentiel énorme. Ces gens-là, comme Thomas Pesquet, ont justement la capacité à s'intégrer à une mission vers Mars. Ou lunaire pour y travailler. Et je trouve quelque part, le fait de les employer à tourner autour de la Terre, pour moi, c'est surtout un gâchis de potentiel humain. autant qu'un gâchis budgétaire. Évidemment, il y a quand même un gâchis financier, c'est certain. Et ça me touche, comme tout le monde, mais au-delà de ça, il y a un gâchis humain. Je pense que les gens qui volent à bord de l'ISS sont des gens fantastiques, j'en connais quelques-uns, et vraiment, ils pourraient participer à des missions beaucoup plus ambitieuses que de rester autour de la Terre.
Très bien. Je rebondis juste sur Mars One. Moi, ce qui me semblait assez surprenant, c'était le fait de partir et de ne pas revenir. Alors, vous l'avez un peu évoqué, vous auriez été capable de le faire. Comment on gère de manière plus générale l'entourage, en fait, dans ce métier-là?
C'est une question très, très délicate, si vous voulez. C'est un petit peu. Bon, il y a des astronautes qui ont le caractère à être fonctionnaires. Donc, tu vas leur poser la question, ils vont répondre. Moi, c'est le plus important, c'est ma famille, etc., etc. Bon. Mais il y a d'autres qui ont une priorité absolue sur ce qu'ils font et ce qu'ils peuvent vivre. Et dans ce cas-là, aller sur Mars. Bon, ça dépasse tout le reste et ça vaut pour eux tous les sacrifices. 7 jours dans l'espace, je suis resté plusieurs mois avec un enthousiasme immense, quoi. Donc, et j'ai un ami qui est le sénateur Jack Garn, américain, qui a participé à un vol spatial et lui, Jack, il a eu la chance. Je lui dis toujours, t'as eu la chance. Il devait faire un vol de 4 jours, ce qui était un peu le standard de la navette de cette époque. Et en fait, ils ont eu tellement de problèmes techniques qui sont restés 8 jours, quoi. C'est-à-dire que les pannes successives ont fait qu'ils n'ont pu rentrer. Et ça, c'est une chance inouïe. Et nous, quand on a rallumé les moteurs de Discovery pour revenir sur Terre, moi, j'espérais qu'on ait une panne, qu'on allait rentrer dans une procédure pour le lendemain allumer d'autres moteurs. Enfin, parce qu'on a plusieurs solutions, hein, bien sûr. Et bon, malheureusement, tout s'est bien passé. On est rentré le jour prévu, à l'heure prévue. Bon, c'est bien aussi, mais bon, on serait resté un peu plus longtemps. Ça aurait été du pain béni.
Il n'y a pas la peur de rester bloqué dans l'espace, jamais.
Non, peut-être certains, hein, peut-être certains que je connais d'ailleurs. Non, mais ce qui me concerne, pas du tout. Non, non, non. Vous savez, quand vous partez, vous partez. Donc tout le reste, il faut l'avoir résolu avant. Il faut être toujours prêt à réagir en cas d'imprévu et de problème. Et donc, ça, bien sûr. Mais en même temps, il faut pas se dire, ça va mal se passer. Non, pour moi, ça n'a aucun sens. Hein. Quand vous êtes prêt quand vous engagez dans ce type de mission, c'est pas du tout la philosophie qu'il faut avoir.
Ça me fait penser au film Gravity que j'ai revu il n'y a pas longtemps, bah justement à l'occasion de notre rencontre. Vous l'avez vu vous-même?
Oui, j'ai vu Gravity et les images sont vraiment superbes. C'est certainement le film qui m'a rapproché le plus de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu étant dans l'espace. C'est un très beau film, les images sont superbes. Le scénario est nullissime, bien sûr. Enfin, c'est un film américain et finalement, la philosophie du film, en gros, c'est qu'il faut revenir sur Terre, aux États-Unis d'Amérique, parce que c'est tellement beau. Mais si on fait abstraction de ça. Sur le plan cinématographique, les images, les montages, les procédés qu'ils ont utilisés, c'est vraiment génial. Alors, il y a un autre film dont on a beaucoup parlé l'an dernier, c'est Interstellar. Alors, ça, c'est un film réellement nul, parce que là, non seulement le scénario est nul, mais les images sont inintéressantes. Alors là, je vous avoue qu'autant j'ai rêvé avec Gravity, j'ai passé 1 heure et demie ou 2 heures superbes, autant avec Interstellar, j'étais fou furieux, j'ai fait partir au bout de 15 minutes, je restais jusqu'à la fin par professionnalisme pour pouvoir porter un jugement en connaissance de cause, mais vraiment à la fin, c'était en connaissance de cause, et j'ai beaucoup regretté le temps que j'ai passé à regarder ce film. Pourquoi? Parce que c'est absurde, et donc, si vous voulez, vous pouvez faire accéder aux rêves. Hein, c'est le but de la poésie, de l'art, etc. Ça fait appel à notre imaginaire. Mais en même temps, dans un film où vous attendez autre chose, où il a un scénario bâti pour amener une certaine vraisemblance qui vous fait entrer, pénétrer dans une démarche allant vers un rêve, et auquel cas il faut que ce soit bien bâti. Interstellar, vraiment, c'est vraiment pas un film que je conseillerais.
Ce qui m'a marqué, moi, donc sur Gravity, c'est le silence aussi. Enfin, est-ce que c'est ça là, quand on est là-haut?
Ah oui, c'est ça. Dans l'espace, bon, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de molécules, donc il n'y a pas de son qui se propage. En revanche, à l'intérieur du vaisseau spatial, il y a la même atmosphère que lorsqu'on est sur Terre. Hein. C'est une composition gazeuse qui est très proche de l'air, à une pression qui est une atmosphère, donc on parle normalement, etc. Voilà, par contre, dans une sortie extravéhiculaire, il n'y a que la radio qui vous relie au vaisseau spatial ou au centre de contrôle.
On va revenir un petit peu sur Terre, juste pour parler de vos racines, parce que vous êtes né au Cameroun.
Je suis le premier astronaute africain et j'en suis fier et j'aime beaucoup l'Afrique. Ce sont mes racines aussi, même si je suis français. J'ai adoré l'Afrique, j'adore toujours l'Afrique. J'y vais le plus souvent possible. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, hein. Ce ne sont pas les conditions qu'on y trouvait il y a 20 ans, bien sûr, pour y travailler, pour aider les gens, et notamment les enfants, à accéder à l'éducation. Enfin, c'est un continent qui est magnifique. Je suis convaincu de l'avenir de l'Afrique, tout en étant convaincu que je ne comprends pas la démarche qui va être celle de ce continent pour accéder à la place qui doit être la sienne.
Vous êtes installé dans la région bordelaise. Qu'est-ce qui vous relie en fait à cette région ?
Eh bien, ce sont en fait mes vraies racines, parce que dans notre vie d'homme, un moment très important, celui de l'adolescence. Et moi, je suis arrivé à Bordeaux lorsque j'avais 10 ans, et j'en suis parti après le bac lorsque j'avais 17-18 ans. Donc ce sont ces années qui sont les plus importantes, hein, où on lie des amitiés, où on est dans des lieux qui nous touchent particulièrement. Moi, c'était à Bordeaux, pour moi, c'est la région la plus belle de France, non pas à cause des paysages qui sont plus beaux, bien sûr, mais là, la qualité de vie entre l'océan, l'estuaire, les vignobles, bien sûr, moi, qui me tiennent particulièrement à cœur, la forêt, les forêts de pins, pour moi, c'est quelque chose dont je ne peux pas me passer. Mais les autres forêts sont très belles, sont aussi belles, peut-être plus belles d'ailleurs que les forêts de pins. Mais dans les forêts de pins, il y a toujours une lumière, un son différent des autres forêts, un sol aussi qui est différent. Donc cet ensemble lac, océan, forêt, estuaire, vignoble, cet équilibre de toutes ces choses, c'est complètement magique. On a à deux pas du Pays Basque, des Pyrénées. C'est vraiment un pays que j'adore et où j'ai pris mes marques finalement avec beaucoup d'amis et voilà, j'y suis bien et dès que j'ai pu y revenir et m'y établir, eh bien j'y suis revenu, je m'y suis établi.
Cet amour pour la région et pour le vignoble ne date pas donc d'aujourd'hui, parce que même à l'époque, en 1985, de votre voyage dans l'espace, vous avez ramené quelque chose avec vous. Oui. D'ici, hein.
Oui, absolument. Disons à cette époque, donc au début des années 80, moi, il y a quelque chose. Je m'intéressais au vin. C'est bon, ça fait partie de mes des choses que j'aime. Hein, les gens qui travaillent dans le vin. Enfin, le vin, c'est vraiment une culture, une poésie. C'est vraiment une autre dimension. Bon. Et puis les gens qui le font sont des gens admirables pour beaucoup d'entre eux. Donc le vin me passionnait et il me paraissait complètement invraisemblable que le vin ne soit pas allé dans l'espace alors que le coca s'apprêtait à y aller. J'ai rien contre le coca, hein, c'est très bon, etc. La question n'est pas là. Enfin, le vin est plus porteur de civilisation et de culture que le coca. Et donc ça me paraissait invraisemblable. Et lorsque j'ai commencé à préparer ce vol avec les Américains, je me suis dit que ce serait bien d'emmener du vin à titre symbolique, bien sûr. Pour que le vin ait été dans cet espace que l'homme a conquis, finalement. Et ça a été assez difficile, ça a été une aventure très compliquée. Bon, j'ai trouvé un ami, Jean-Michel Caz, qui était le propriétaire de Nagebage, qui s'engageait dans l'aventure sans aucun problème. Mais après, les règlements, etc., le CNES s'y est engagé aussi sans problème. On a fait réaliser au professeur Ribeiro Gaillon des expériences sur les moûts de raisin qui permettaient d'emmener des raisins, enfin, de cette matière qui fait le vin, dans l'espace. Donc, on alliait la science et puis ce qu'on voulait réaliser. Bon, c'était peut-être un détour, mais peu importe, c'était noble. Et puis, à cette époque, la France avait un gouvernement que je qualifierais de médiocre, mais enfin, on a connu d'autres depuis. Et quelqu'un au gouvernement, pour ne pas la nommer Edith Cresson, qui était ministre du Commerce extérieur, s'est finalement opposé à ce qu'on amène ses expériences sur les moûts de raisin et autres dans l'espace, disant que l'image de la France, c'était la haute technologie, et c'était pas la mode, le luxe, le vin et toutes ces choses-là. Je vous fais remarquer que la balance commerciale de la France, quand elle penche un petit peu du côté positif, bah c'est hélas, c'est grâce au vin, au luxe et maintenant à l'aéronautique. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore Airbus. Bon, peu importe, toujours est-il que tout a été annulé, tout ce qu'on avait été préparé a été annulé, et il n'y avait plus que quelques mois avant le tir, avant le départ de Discovery. Et donc, avec les Américains, auxquels j'ai expliqué que moi j'avais des amis qui étaient vignerons, et ça leur ferait extrêmement plaisir que j'amène leur vin dans l'espace, titre symbolique, pour leur faire un cadeau. On a droit, en tant qu'astronaute, d'amener quelques objets symboliques pour son père, sa mère, son ami, enfin, il y a des proches.
Oui, oui.
C'est très réglementé avec les Américains, tout cela, vous imaginez. Bon, donc, les Américains ont accepté. C'est comme ça que j'ai pu amener une fillette de linge beige, 75. Mais le but n'était pas d'amener du linge beige 75 ou d'un autre millésime. Le but était d'amener le vin au sens œcuménique du terme.
D'accord.
Et dans mon projet, on amenait plusieurs cépages, du Cabernet Sauvignon, du Merlot, du Sémillon, etc., pour que symboliquement, ce qui fait une certaine forme de culture et de civilisation, soit allé aussi dans l'espace, ce domaine nouveau qu'on commençait juste à conquérir. Donc, finalement, c'est comme ça, grâce aux Américains, que le vin a pu aller dans l'espace en 85, donc il y a 30 ans déjà. Et voilà. Puis il se trouve que c'est un vin de Bordeaux, du Médoc, de Pauillac. Mais ce n'était pas le but exact. C'est le but, aller au-delà.
La bouteille est revenue avec vous.
Oui, la bouteille est revenue, elle est à Pauillac. Et pour l'instant, enfin j'espère pour l'instant, parce qu'elle appartient à tout le monde. Et donc, comme le Bordeaux a de très beaux projets, comme toujours, hein, sous l'impulsion du maire actuel, il y a eu des réalisations extraordinaires qui sont faites à Bordeaux, qui a évolué de manière superbe. Donc, il y a c'est le, comment s'appelle, la cité des
Cité des
civilisations
Sauvignons,
et
oui.
du vin. Qui est en train, enfin qui va certainement être ouverte l'an prochain. Et j'espère que ce vin qui était dans l'espace aura une petite place dans cette cité, hein, puisqu'en fait, c'est le vin, c'est la civilisation du vin qui était représentée.
Il n'y a pas de projet de goûter ce vin pour voir. Non.
Non, il n'y a pas de projet de goûter ce vin. Je vais vous dire pourquoi, d'une manière très simple. C'est que quand vous amenez un liquide dans l'espace, s'il n'est pas spécialement conditionné, c'est-à-dire s'il n'est pas sous vide sur Terre,
D'accord,
hein,
oui.
donc s'il reste du gaz en même temps que du liquide, en même temps que le liquide dans le contenant, la bouteille, dans l'espace en apesanteur, ça fait une mousse.
D'accord.
C'est totalement une mousse. Donc c'est un petit peu comme si vous preniez une fillette de vin et que vous l'agitiez frénétiquement pendant 8 jours, nuit et jour. Je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen, peut-être le meilleur moyen de la faire vieillir, mais aussi le meilleur moyen de la faire mourir. Sûrement pas le meilleur moyen de l'amener à maturité et à son meilleur niveau.
On reste un petit peu dans la région bordelaise. J'ai appris au cours des recherches que j'ai faites pour cet entretien qu'il y a un endroit dans la région bordelaise un petit peu symbolique qui vous relie, vous, votre métier et la ville d'Arès. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose peut-être?
Moi, mon métier, la ville d'Arès. Non, le bassin, bien sûr, mais bon. Non, je ne vois pas particulièrement. Non, dites-moi.
En fait, la ville d'Arès a un ovniport, c'est-à-dire une piste pour accueillir des extraterrestres si
Ah, c'est
jamais ils
bien,
passent
ça.
par chez nous.
Ah, mais
Vous
ça,
étiez au courant?
je l'ignorais totalement. Mais c'est bien qu'Arès ait un ovniport. Je doute qu'il serve, là encore, comme pour Mars One, mais en tous les cas, ça fait appel à l'imagination, au rêve. C'est beau, quoi. Hein, c'est bien.
Et vous croyez-vous aux extraterrestres, tout ça?
Oui, pour moi, j'y crois. Enfin, c'est une évidence qu'il y a des extraterrestres au sens où il y a des êtres développés qui vivent sur d'autres planètes orbitant autour d'autres étoiles. Bien sûr, ça fait pas de doute. Ce qui est plus problématique, c'est de penser que c'est au même moment que nous. Parce que ce que comprennent difficilement les gens, bien souvent, c'est que notre vie terrestre, la vie de l'espèce humaine sur Terre, elle date de très peu de temps et elle va encore durer assez peu de temps, c'est-à-dire quelques millions d'années, peu importe. Et dans l'espace-temps de l'univers, c'est rien, c'est une microseconde dans notre vie. Et donc, il faudrait que ces gens qui vivent ailleurs vivent au même moment que nous, ce qui est complètement. Alors là, autant j'ai une certitude absolue qu'il y a d'autres personnes qui vivent dans l'univers, autant la probabilité pour qu'ils vivent au même micro-instant que nous est très très faible.
D'accord.
Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça que le problème des extraterrestres, ça me fait toujours sourire, parce que c'est aussi un problème très intéressant, hein, comme Marswan, ça appelle à la réflexion, à l'imagination. Et il y a beaucoup de phénomènes qui sont inexpliqués, hein, qu'on peut voir dans la troisième dimension quand on est sur Terre. Il y en a eu beaucoup qui ont été expliqués, il y en a encore beaucoup d'autres qui n'ont pas été expliqués. Mais ce n'est pas pour ça que ce sont des gens qui viennent d'ailleurs. Et de toute façon, on imagine mal que quelqu'un qui soit capable de venir sur Terre en venant d'ailleurs vienne sur Terre et ne dise rien avant de partir. Ça me paraît encore plus invraisemblable que le reste, parce qu'il doit avoir un stade d'intelligence infiniment supérieur au nôtre pour être capable techniquement de venir sur cette planète qui orbite autour de l'étoile le Soleil. Et donc je vois mal les gens arriver et puis repartir sans un mot, ça me paraît complètement ubuesque.
Il y a une équipe, je crois, d'astrophysiciens américains qui ont envie d'essayer de communiquer avec eux. Alors, voilà, je pense que vous en avez entendu parler.
Oui, bien sûr, il y a eu plusieurs. L'expérience, c'est d'actualité. Hein. En fait, on envoie des messages dans l'espace, mais justement, ces messages, non. Je ne dis pas qu'ils se libèrent totalement de l'aspect temporel, bien sûr, mais ce sont des messages qui pourront être lus, qui pourront être reçus dans des milliards d'années, pourquoi pas. Donc bien après que l'espèce humaine se soit éteinte sur la planète Terre, et que la planète Terre n'existera plus d'ailleurs. Donc ça, c'est bien. Hein. Moi, je serais heureux qu'on perçoive un signal qui a été émis il y a 30 milliards d'années par d'autres êtres vivants, vous voyez, dans l'univers ailleurs, ce serait superbe.
Vous qui avez vu la Terre d'un point de vue, on en parlait tout à l'heure, hein, que peu de personnes a eu la chance de voir, comment vous vivez la dégradation de la planète? Est-ce que vous êtes engagé pour l'environnement, ces choses-là
Alors, je me suis beaucoup engagé pour l'environnement, pour une raison extrêmement simple, c'est que quand vous êtes là-haut et que vous avez cette vision de la Terre, vous percevez sa beauté, ça j'ai déjà dit, c'est évident. Mais ce qui est moins évident, c'est qu'on perçoit sa fragilité. Pourquoi? Parce que la vie et tout ce qui vit à la surface de la Terre, pas seulement l'espèce humaine, tout ce qui vit, tout ce qui fait la nature dont nous faisons partie, vit grâce à l'atmosphère qui entoure la Terre. Et cette atmosphère, quand vous êtes dans l'espace, vous ne la discernez pas. Il faut bien comprendre que l'atmosphère terrestre, c'est 60, 80 km, bon, peu importe, même 100 km. La Terre a un rayon de 12 000 km, un diamètre de 24 000 km. Donc imaginez 80 km par rapport à 24 000, vous comprenez bien, et dès qu'on s'éloigne de plus de 100 km de la Terre, on ne discerne plus l'atmosphère. Et quand vous avez cette vision de l'extérieur, vous réalisez que c'est infiniment beau, mais c'est infiniment fragile, puisque l'atmosphère est tellement fine que vous ne la discernez plus. Donc quand vous revenez, bien sûr, vous comprenez que l'environnement, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, certainement ce qu'on a de plus précieux, et qu'il faut le défendre. Bon, ça c'est la bonne partie de la réponse. L'autre partie, c'est qu'avec le temps, ça c'était il y a 30 ans, il y a 20 ans, et avec le temps, je me suis rendu compte que on en parlait de plus en plus, ce qui est bien. Les gens sont de plus en plus sensibilisés, ils comprennent, ce qui est très très bien. Mais en même temps, sur le plan politique, dans le monde, on ne fait rien de majeur pour s'attaquer à ce problème. Vous voyez, on parle du réchauffement climatique depuis 15 ans, mais toujours rien qui a été fait. Donc on commence peut-être à en ressentir les effets, mais il n'y a toujours rien de fait. Donc je pense qu'on va droit dans le mur. Hein, donc il va y avoir une catastrophe majeure, ce qui n'a aucune importance, parce que finalement, que l'espèce humaine soit 6 milliards, 10 milliards ou 500 000, à vrai dire, on s'en fout. Même si, ça encore, c'est un principe de notre civilisation, du non-risque, etc., qu'on n'a pas le droit de risquer la vie humaine, on n'a pas le droit de penser qu'on peut avoir une catastrophe qui anéantisse 2 milliards de vies. Vous voyez, ce genre de choses qui sont des blocages sur le plan intellectuel, mais en fait, qui ne correspondent à rien sur le plan réel. Et donc, pour moi, l'avenir de l'environnement de la Terre, donc l'avenir de notre espèce sur Terre, et il est assez incertain. Mais ça n'a pas une grande importance, parce que qu'il y en ait 1 milliard ou 500 000 qui survivent, ou qu'on devienne 10 milliards ou 20 milliards, c'est pas ça le fond du problème. En fait, la seule réalité majeure qui nous permettrait de contrer ce problème environnemental, et ça c'est complètement contre nature d'en parler et de le dire, alors là c'est vraiment pas du tout bien de parler comme ça, mais ça serait simplement d'arrêter de faire progresser l'espèce humaine sur Terre. On est 6 milliards, on va être 7 milliards, on va être en quoi de 10 milliards, la catastrophe va suivre la courbe de progression de notre espèce sur Terre. Et ça, bien sûr, alors c'est complètement incorrect de le dire, d'en parler. Et donc, il est certain qu'un problème, quand on ne le définit pas et qu'on n'en parle pas, on peut encore moins le résoudre.